Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud ce lundi 8 mai. Le député basalpin Léo Valter inquiet alors que les urgences de Manosque affichent à nouveau porte close la nuit avec un système de régulation le jour. Il a interpellé Agnès Firmin-Lebaudeau, la ministre déléguée chargée des professions de santé. Changement de leader au sein du Rassemblement national dans les Alpes de Haute-Provence. Christian Girard laisse sa place à son attaché parlementaire Jean-Marc Richelme. C'est l'heure de la douloureuse dans les Alpes de Haute-Provence. Vous avez jusqu'au 29 mai pour déclarer vos revenus. Avec quelques nouveautés cette année, comme la déclaration d'occupation obligatoire pour les propriétaires, les membres d'indivision ou encore les usufruitiers. Les lacs des buissonnades à Oraison dans les starting blocks alors que la belle saison attaque. 300 000 euros de travaux y ont été menés ces deux dernières années pour accueillir au mieux le public, tout en conservant le caractère préservé de ces espaces. Mais pour commencer, une jeune Britannique de 21 ans est décédée hier lors d'une randonnée à Demandolx. Elle a été victime d'un arrêt cardiaque. Le PGHM ainsi qu'un médecin de l'ANSM ont été dépêchés sur place. Malheureusement, la jeune femme n'a pu être réanimée. Que comptez-vous faire pour l'hôpital de Manosque ? La question de Léo Valter à Agnès Firmin-Lebaudeau. Le député insoumis des Alpes de Haute-Provence a interpellé vendredi la ministre déléguée chargée des professions de santé. Vous le savez, de nouvelles nuits de fermeture et de nouvelles journées de régulation ont été annoncées. Le parlementaire a voulu relancer le débat sur la crise de l'hôpital. Écoutez-le.
À Manosque, en septembre, un infirmier et une aide-soignante m'ont raconté ce soir de fermeture des urgences ou en pause devant l'hôpital. Ils ont vu arriver une voiture avec une jeune femme blessée à bord. La seule chose qu'on a pu faire, nous soignants, devant un hôpital techniquement ouvert, mais fermé au public, c'est d'appeler les pompiers pour qu'ils la prennent en charge. Un sentiment d'impuissance insupportable pour nous qui avons choisi ces métiers pour soigner et secourir, m'ont-ils dit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne va pas mieux. De janvier à mars 2023, 16 nuits de fermeture. Ce mois d'avril, 30 nuits consécutives et la mise en place d'une régulation de l'accueil des patients en journée. Le mois de mai s'annonce tout aussi dramatique. Contrairement à ce qu'a déclaré François Braun, la mise en place brutale de la loi Rist a engendré des conséquences désastreuses pour l'hôpital public. La carrière d'urgentiste, vous l'avez dit, n'attire plus. En particulier depuis le remplacement de la capacité d'aide médicale urgente par le desk d'urgentiste qui enferme les médecins dans cette carrière épuisante et leur interdit toute reconversion. Que comptez-vous faire à court terme pour assurer la réouverture des urgences de Manosque la nuit et à plus long terme pour sauver notre hôpital public ?
L'an passé, les urgences de Manosque ont enregistré 119 nuits de fermeture. À cette question, la ministre des professions de santé a répondu à Léo Valter qu'il fallait appeler le 15.
Il faut appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences. D'ailleurs, appeler le 15 en cas d'urgence vitale, c'est absolument nécessaire. N'allez pas directement à l'hôpital, appelez le 15. Sauve des vies et peut sauver des vies. Je ne peux pas vous laisser dire que la régulation de l'intérim a été mise en place brutalement. C'est faux. C'est faux et vous le savez, puisque dès le mois de janvier, les ARS et les directeurs d'hôpitaux se sont employés, hôpital par hôpital, service par service, à regarder l'impact de la mise en place de la régulation de l'intérim et à trouver des solutions.
Lors du système de régulation, seules les urgences nécessitant un soin immédiat sont accueillies. Les autres patients sont renvoyés vers la médecine libérale. Les femmes enceintes sont, elles, accueillies. Vous retrouvez le détail des journées de régulation et les fermetures de nuit sur alpe1.com. Politique avec ce changement de leader au sein du Rassemblement national dans les Alpes de Haute-Provence. Le député Christian Girard laisse sa place à son attaché parlementaire Jean-Marc Richelme. La passation de pouvoir a eu lieu samedi à Château-Arnoux-Saint-Auban. On reste justement à Château-Arnoux-Saint-Auban avec un nouveau café de la transition. Demain, Sans Transition va s'interroger sur les solutions mises en place par les entreprises pour réduire leur impact sur l'environnement. Pour l'occasion, un invité exceptionnel fera le déplacement. Il s'agit du climatologue et glaciologue, ancien vice-président du conseil scientifique du GIEC, Jean Jouzel. Il s'est notamment fait connaître pour son travail sur le réchauffement climatique. Il avait reçu avec Claude Laurus la médaille d'or du CNRS en 2022. Ce café de la transition aura lieu donc à 18h au cinématographe du centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux-Saint-Auban. Attention, vous avez jusqu'au 29 mai pour faire votre déclaration de revenus dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ça, c'est si vous la faites sur Internet. Les usagers qui utilisent encore la version papier auront jusqu'au 22 mai. Cette année, la campagne est rythmée par une volonté du gouvernement de mettre en place des mesures qui favorisent le pouvoir d'achat, souligne Marie-Pierre Courteau, la directrice départementale par intérim des finances publiques dans les Alpes-de-Haute-Provence. Une des grandes nouveautés sera aussi la déclaration d'occupation obligatoire pour les propriétaires, les membres d'indivision ou encore les usufruitiers. Écoutez Marie-Pierre Courteau.
En fait, en 2023, c'est la première année où la taxe d'habitation sur les résidences principales est définitivement supprimée pour tous les usagers, quel que soit leur salaire. Cependant, la taxe d'habitation reste due pour tous les autres locaux, notamment les résidences secondaires, pour les locaux, pardon, des résidences secondaires ou de locaux vacants. C'est pour cela que pour que nous soyons en capacité de savoir quels sont les locaux qui doivent être imposés à ce titre, il y a une nouvelle formalité déclarative qui est obligatoire pour l'ensemble des propriétaires, quels qu'ils soient. Ces propriétaires doivent, pour chacun de leurs locaux, aller sur le site impots.gouv et indiquer à quel titre ils occupent ces locaux, s'ils les occupent, ou alors qu'ils indiquent, s'ils ne les occupent pas eux-mêmes, le nom de leur locataire, par exemple, qui va permettre ensuite de savoir si ce local est occupé ou pas. S'ils ne mettent pas de nom, on va considérer que ce local est occupé par eux-mêmes et donc ils seront taxés en taxe d'habitation secondaire.
Marie-Pierre Courteau au micro de notre correspondant à Digne-les-Bains et Michel Bonnefoy. Notez que cette déclaration d'occupation doit être effectuée avant le 1er juillet. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le www.impots.gouv.fr ou par téléphone au 0809 401 401. Vous pouvez également vous rendre dans les différents France Services du territoire. La médaille de la ville de Digne-les-Bains décernée à Boris Cyrulnik, le célèbre neuropsychiatre, a été honorée vendredi en ouverture du premier salon du livre dinois. Il avait été interne à l'hôpital psychiatrique de Digne-les-Bains de 1968 à 1971. Durant cette période, il avait pratiqué le rugby comme joueur amateur, ce qui fait de lui un nouvel ambassadeur du mondial de rugby. Il se déroulera pour rappel à Digne du 2 au 30 septembre. Vous y avez peut-être passé cette journée du 8 mai. Les lacs des Buissonnades à Oraison sont des espaces propices à la détente. 300 000 euros y ont été investis ces deux dernières années par la commune avec le soutien de DLVA Agglo et du département. Pour le maire, même si de nouveaux aménagements ont été faits, le caractère sauvage de cet espace de 5 hectares, tant apprécié par les Oraisonnais, n'a pas été dénaturé. Écoutez Benoît Gauvan.
On a amélioré tout ce qui est parking, parce qu'on avait un parking sur lequel le stationnement était un peu anarchique, donc on a amélioré le parking, on a planté des arbres, on a changé tous les panneaux indicateurs pour au lac, hein, puisque on a un parcours botanique, donc on a aussi changé tous les panneaux. On a développé une plateforme de fitness, on a développé surtout un accès PMR au lac, c'est-à-dire que du parking jusque dans l'eau, il y a un accès qui a été aménagé PMR avec un tir à l'eau qui peut vous permettre, quand vous êtes à mobilité réduite, d'aller quand même dans l'eau au lac. Donc voilà, il y a vraiment eu beaucoup d'investissements et puis on a développé aussi le partenariat donc avec l'Aquagame, avec l'Acrobranche, avec le lac d'eau, avec le paintball pour développer ces activités-là, mais tout en gardant quand même ce côté naturel et un petit peu sauvage de notre lac parce que nous y tenons beaucoup.
Et notez que l'accès au parking est gratuit toute l'année. En saison, le lac est surveillé par des maîtres nageurs dès le 1er juillet.
Alpes 1 Sport.
En hockey sur glace, les Rapaces de Gap conservent leur capitaine Romain Gutiérrez poursuit l'aventure aux Alpines pour une 7e année. Le mercato de la formation gapensaise qui sonne aussi avec départ. Tout d'abord celui du Biélorusse Egor Kenigdov après une année. Et puis de Loris Chauvin, loin d'être définitif puisqu'il part en direction des Spartiates de Marseille. Un prêt donc dans le cadre du partenariat licence bleue entre les deux clubs pour permettre le développement du jeune défenseur en D1. Il sera à la disposition des Rapaces en cas de besoin. Et puis François Veloger, candidat au comité directeur de la FFR. Après la démission de l'ancien président Bernard Laporte et son ancien comité. La direction du rugby français est donc en suspens. La Fédération française de rugby qui va connaître de nouvelles élections, deux sont au programme. Un scrutin pour le nouveau président, ce sera le 12 juin. Et puis auparavant, un vote pour désigner les nouveaux membres du comité directeur le 26 mai. Parmi les candidats, on retrouve François Veloger, le président du rugby club du pays Briançonnais depuis 2020. Il est membre de la Commission nationale de la territorialité. Il veut, je cite, apporter sa pierre à l'édifice.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.